un mois, un pays. Globetrotter, le podcast des étudiants en Erasmus, présenté par Fabio et Nathan, tous les lundis à 14h. Sur Radio Campus Lille.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Globetrotter, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Campus. Chaque lundi à 14h, on vous invite à découvrir un pays sous un angle unique, celui d'un étudiant en Erasmus. Un mois, un pays, c'est le concept. Ce mois-ci, on vous emmène en Corée du Sud, un pays qui mélange à merveille tradition et modernité. Et pour cette première escale, on a le plaisir de recevoir Iman Olwig, qui est partie en 2020 pour sa licence en sciences politiques à Séoul. Elle va nous partager ses anecdotes et ses découvertes personnelles sur la vie là-bas. Mais avant de plonger dans l'aventure coréenne, je laisse la parole à Nathan, mon co-animateur, qui va vous expliquer en détail le concept de notre émission.
Merci beaucoup Fabio. Alors l'émission, comment ça va se passer? Alors c'est très simple. Sur ce mois-ci, vous aurez donc 4 émissions, toujours à la même heure, où nous vous présenterons donc sur ce même mois la même destination. Donc aujourd'hui, on est avec Iman et pendant ce mois-ci, le mois d'octobre, pendant chaque semaine, nous allons parler donc de la Corée selon différents axes, selon différents sujets. Et donc, on laissera la parole à Iman qui pourra parler de ses expériences, de ce qu'elle a vécu, de comment est-ce qu'elle s'est ressentie là-bas. Et donc tout ça pendant tout un mois. Donc vous allez pouvoir profiter avec nous trois ce mois-ci, avec un autre invité le mois prochain, et ainsi de suite.
Merci Nathan, je laisse tout de suite la parole à Iman Olwig. Alors ma première question va être simple, d'où viens-tu, que fais-tu et pourquoi es-tu parti à Séoul ?
Waouh, alors déjà je tiens à dire que c'est très particulier de m'entendre être présentée comme étant étudiante, voilà, parce que ça commence à remonter un petit peu.
Alors oui, on a fait un choix éditorial pour cette première émission, car on considère qu'en un mois, nous étudiants en Erasmus actuellement, on n'a pas le temps de vivre pleinement notre expérience. Du coup, pour cette première émission, c'est Iman.
C'est vrai. Donc, je suis partie il y a un petit moment. Enfin, il y a un petit moment. C'était en 2019 jusqu'en 2020. Donc, en Corée du Sud, j'étais à Séoul, à l'université de Dongguk. Et pour la présentation personnelle, là, c'est toujours dur comme question. Hein, mais bon, je suis journaliste. Je fais plein de choses. Je donne des cours de radio à l'école supérieure de journalisme de Lille. Et à côté de ça, je travaille notamment chez France Bleu et j'ai un média indépendant qui s'appelle Inkawa sur place. Voilà, c'est déjà pas mal, je crois.
Très, très bien. Nous, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Fabio. Je suis étudiant en Erasmus à Rome, en licence de lettres modernes, option journaliste. Et toi, Nathan ?
Bonjour. Donc, je m'appelle Nathan. J'ai actuellement 20 ans. Et du coup, je suis aussi étudiant à l'ESJ en Erasmus. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas à Rome. Je suis à Lisbonne.
On va pouvoir commencer cette première axe, cette première émission de Globetrotter qui sera sur les démarches Erasmus et tout ce qu'il y a à faire avant le départ. Première question, Iman, pourquoi Séoul ?
Waouh ! Alors ça remonte à un petit moment maintenant, mais à l'époque, alors quand j'étais très jeune, j'aimais beaucoup le Japon et j'étais très intéressée de manière générale par toutes les cultures asiatiques, etc. Et j'ai choisi Séoul parce que je me suis dit tant qu'à faire, si je fais un Erasmus, enfin, en tout cas si je pars en échange, autant partir à un endroit qui est plus difficile d'accès le reste du temps, parce que dans ma tête je me disais, je voulais aussi aller en Allemagne, j'y suis allée après, mais je me disais c'est plus facile pour moi d'aller en Allemagne en train, même en bus, tu vois, que d'aller à Séoul. Ouais. Donc autant profiter de pouvoir le faire de manière estudiantine, en fait. Et voilà, donc j'ai choisi Séoul pour un mix de ces raisons. Et puis ça m'a attiré, en fait, la Corée du Sud. Je sais pas, j'avais commencé à apprendre un peu la langue parce que j'avais des amis coréens en France. Et voilà, je me suis retrouvée là-bas.
Mais donc, dans ce cas-là, tu as choisi une destination qui est en dehors de l'Union européenne et donc qui est hors du programme Erasmus, car c'est un autre programme qui s'occupe pour ces voyages-là, comme par exemple... En Australie, c'est le programme Maori. Alors, comment est-ce que ça se passe pour tout ce qui est le processus administratif pour candidater notamment à Séoul, ou en tout cas dans les pays d'Asie ?
Alors là, je pense que je vais être un petit peu vague, pour être honnête, parce que ça commence à remonter. Quand j'ai fait les démarches, c'était en 2019.
C'est pas un souci, car on prévoit de faire une émission avec l'Université de Lille pour simplifier et expliquer les démarches Erasmus.
Super, comme ça, ils auront encore plus les infos, et des infos peut-être plus neuves aussi que les miennes. Oh. Non mais c'est vrai, parce qu'en vérité, je le dis pas juste de manière humoristique, mais en vrai les démarches pour partir à l'étranger, elles changent très vite aussi. Oui. Et puis moi quand je suis partie aussi c'était pré-Covid, donc j'imagine qu'il y a aussi des choses qui ont changé sur ce point-là, surtout peut-être sur les destinations hors Erasmus, comme tu l'as dit, Nathan. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, sur mes démarches, je me souviens que j'avais dû préparer bien à l'avance. Je crois que c'est même pour les destinations hors Europe, c'est un peu avant les destinations en Europe. Voilà, on a un dossier à remplir avec nos choix, une lettre de motivation. Nous, on devait prouver qu'on parlait anglais, il me semble, parce que forcément on prenait des cours en anglais. T'étais pas obligé, par contre, de parler coréen, ce qui était vraiment vraiment positif, parce que à cette époque-là, j'étais incapable d'aligner deux mots. Et puis voilà, c'était surtout un gros dossier. Après ça, c'était les démarches vis-à-vis de l'université. Puis après, il y a beaucoup de démarches personnelles, de se préparer mentalement, préparer aussi un peu, enfin avoir un peu d'argent de côté. Donc j'ai dû travailler beaucoup pendant l'année pour mettre un maximum d'argent de côté, prévoir, enfin faire en sorte que son compte en banque il soit utilisable aussi à l'étranger. Enfin il y a plein de choses aussi auxquelles on pense pas. Je sais pas, peut-être que vous allez pouvoir me dire des choses similaires, puisque vous êtes actuellement en Erasmus, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plein de démarches qui sont pas forcément prévues. Type quand tu arrivais là-bas, faire sa carte, sa alien card, sa carte de séjour aussi, toutes ces choses-là auxquelles on pense pas forcément en partant, mais qui sont très lourdes à l'arrivée. Oui, les deux premiers mois, allez, c'est assez lourd en démarche administrative. Puis après, le reste, c'est que du positif. Enfin, on en parlera sûrement après. Mais oui. Voilà, pour pas dégoûter aussi les gens qui nous écoutent, dans tous les cas, à cet âge-là, vous allez faire des démarches administratives constamment. Donc, autant les faire dans un pays étranger. Voilà.
Je suis totalement d'accord là-dessus.
Au moins, ça roule, c'est ça l'avantage.
Ben ouais, c'est ça.
C'est ça, donc je pense aussi que c'est pour qu'on gagne en maturité. Et du coup, t'as un peu mâché la question, mais quelles démarches et préparations as-tu mises en place avant de partir ? Sur le plan administratif, on vient d'en parler, mais aussi sur le plan culturel et personnel. Le gros débat pour les étudiants en Erasmus, la grosse bataille, c'est la recherche de logement. Comment ça s'est passé pour toi ?
Ah oui, ça c'était aussi un... un gros investissement. Moi, j'ai choisi, et je le conseillerais personnellement à toutes les personnes qui partent, en tout cas en Corée du Sud, parce qu'après, pour l'Europe et tout, j'ai pas la même expérience, mais ou dans des pays vraiment lointains, typiquement Japon, Corée, les États-Unis, je m'y connais moins, mais j'ai choisi d'aller en dortoir le premier semestre, parce que déjà au niveau financier c'était beaucoup plus abordable. Je crois que je payais environ 800 € le semestre, ce qui est impossible. C'est impossible de payer 800 € pour 6 mois d'appartement dans un pays étranger, même en France c'est impossible. Donc j'ai choisi ça, et puis j'ai trouvé ça assez positif en fait, parce que ça m'a permis de me faire des copines en fait, et des potes qui étaient avec moi dans les dortoirs. Alors on était deux par chambre, donc c'était gérable, hein, mais voilà, de croiser des personnes, bon, en tout cas pour le coup les dortoirs étaient pas mixtes, donc de croiser des filles dans les couloirs avec qui j'ai pu devenir amie par la suite et me rapprocher, et du coup me faire un petit peu un réseau, ou en tout cas des copines dès que je suis arrivée dans le pays. Et ça, ça m'a vachement aidé, parce que j'imagine aussi qu'on en parlera après, mais le fait d'être dans un pays étranger, c'est beaucoup autant de responsabilités, parfois la maison nous manque aussi, et il faut qu'on se trouve aussi, qu'on se construise une famille, des amis, des contacts. Et du coup, le fait d'être en dortoir, ça m'a aidé. Après, j'imagine que si on choisit aussi d'être en coloc, ça peut être pas mal. Mais voilà, le deuxième semestre, après, j'ai trouvé un appartement. Donc, moi, j'avais pris un Airbnb à l'époque en long terme, un Airbnb pendant 6 mois. Ouais, il y en a plein qui font ça. Mais le truc, c'est que du coup, je me suis sentie très seule après, pour le coup. Parce que j'avais pas tout ce truc-là, toutes les personnes qui passent dans les couloirs. Si t'as un problème, tu toques à la porte d'à côté. C'était plus difficile pour moi de vivre seule dans un petit appartement qu'en dortoir.
En plus, il y a la sensation, puisque dans un certain sens, en fait, j'ai l'habitude donc de côtoyer et de coopérer d'une certaine manière avec les autres personnes.
Ben ouais.
Parfois, les personnes ne parlent même pas la langue. Donc, en fait, il y a un peu des sortes de coalitions qui se font dans les dortoirs.
De toute façon, j'ai l'impression que n'importe où tu sois, il y aura toujours des clans entre francophones, hispanophobes, européens, etc. Petite question, Iman, dans ton dortoir, il y avait que des gens en Erasmus, en échange, ou alors il y avait aussi d'autres Coréens?
Il y avait tout le monde, en fait. Il y avait plein. Il y avait des Américaines, il y avait des Européennes, il y avait des Françaises, mais il y avait aussi des Coréennes, des Japonaises. Enfin, en fait, il y avait tout le monde était dans les mêmes dortoirs, donc ça, c'était cool.
Ce qui forme une espèce de communauté assez cool, j'imagine.
Bah ouais.
En tout cas, tu nous en parles pas comme une expérience négative.
Ah non, pas du tout. Et après, moi, je trouve que ça se... Quand t'es dans des pays vraiment étrangers, lointains, comme la Corée, les États-Unis, le Japon et tout, il y a des coalitions qui se font, effectivement, mais entre Européens aussi. Tu vois, pas qu'entre Français. Et je trouve ça sympa.
C'est quand même spécifique au fait de partir hors Union européenne, en les cultures qui se rapprochent, etc. C'est humain, mais est-ce que tu as réussi à approcher des Coréens?
Ah oui, bah oui, non, mais je me suis fait plein de potes coréens aussi. C'est sûr qu'au début, c'est plus simple aussi de se faire ami avec des Européens parce qu'il y a une culture commune, il y a plein de choses que vous partagez. Mais après, moi, je suis assez sociable, donc ça m'a pas posé problème de me faire des amis. Mais oui, bien sûr, je me suis fait ami avec des Coréens aussi, des Américaines, des Américains. Je me suis beaucoup... Au début aussi, je faisais en sorte aussi de m'imprégner de la culture et d'être ami avec des locaux aussi. Mais c'est un peu particulier la Corée du Sud parce que je pense que si vous avez d'autres personnes, si vous invitez d'autres personnes qui sont allées en Corée du Sud, ils vous diront des choses similaires. Mais c'est un peu particulier d'être ami avec des Coréens en tant qu'étrangers parce que ils ont pas du tout la même conception des relations sociales et il y a des Coréens avec qui j'ai encore des très bons contacts aujourd'hui, mais souvent c'est des Coréens qui ont vécu à l'étranger ou alors qui ont une double culture, une double nationalité. Les Coréens coréens qui viennent de Corée, qui sont nés en Corée, qui ont rarement quitté la Corée, c'est plus dur de construire des relations amicales avec eux. Ils considèrent pas vraiment les relations amicales comme un truc, surtout avec les étrangers, comme un truc sérieux entre guillemets. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que c'est dur de construire des liens profonds.
Comme si ça faisait partie de leur cursus universitaire que d'échanger avec des Européens et des étrangers.
Ouais, c'est un peu ça.
Comme si ça allait de soi, en fait.
Comme si c'était un lien étudiant-professeur, quoi. Enfin, je sais pas si je l'explique bien, mais je pense que t'as l'idée, quoi.
Bah, de toute façon, c'est difficile à expliquer, mais oui, c'est un peu ça. C'est un truc, on est amis le temps que... Enfin, on est copains le temps que t'es en Corée, puis après, rentre chez toi, quoi. Tu vois.
Ok.
Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton premier jour quand tu es arrivé en Corée, sur tes impressions et tes ressentis, et aussi un peu tes premiers réflexes quand tu es arrivé dans le pays, et un peu ce moment où tu t'es dit c'est bon, je suis arrivé en Corée, c'est bon, j'y suis, je suis à l'étranger.
Je crois que ça a mis un peu plus qu'une journée, hein, parce que c'est difficile de s'en rendre compte, surtout. Alors moi, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger après, quand j'ai eu 18 ans et quand j'ai grandi et quand j'ai pu faire mes propres voyages avec l'argent que j'avais, que j'ai gagné en travaillant et tout. Mais quand j'étais petite, je suis pas beaucoup allée à l'étranger avec mes parents. Et du coup, c'était très particulier parce que j'y ai pas cru. Tant que j'étais pas là-bas et que j'étais pas installée, que j'avais pas mes valises, jusqu'au bout, en fait, j'étais en mode, ben, c'est pas possible, je vais pas vivre en Corée pendant un an, c'est un truc de fou.
Je vois de quoi tu parles.
C'est particulier comme sentiment, non?
Oui.
J'arrivais pas à y croire. Même quand j'ai fait mon escale, j'étais à Pékin, je crois, en escale, j'y croyais pas non plus. J'étais en mode, mais c'est pas possible, je suis pas en Chine, je suis dans un aéroport au hasard, enfin. Ça a mis vraiment du temps à monter au cerveau que oui, j'allais vivre là-bas pendant un an.
Oui, je pense aussi que l'éloignement géographique joue beaucoup. C'est pas comme si t'étais en Europe, proche de la France. Là, pour rentrer, c'est vraiment un investissement, que ce soit au niveau du temps ou de l'argent sur les billets, et que tu vas pas pouvoir rentrer avant un petit moment, quoi.
C'est ça, c'est une nouvelle vie presque pendant un an.
Oui, c'est vrai, c'est... C'est des choses qui sont tellement différentes, en plus, que ce soit au niveau des cultures, que ce soit au niveau juste du vécu là-bas.
Ah oui, clairement.
En plus, c'est pas des choses négatives comme son sentiment.
Oui, c'est clairement pas négatif. Mais même, c'est des choses qui peuvent être perturbantes. Je sais pas, je pose la question comme ça, mais c'est, il me semble, en Corée, le système scolaire, il commence en mars, si je dis pas de bêtises.
Donc, du coup, toi, c'est... Oui, ouais.
Mais du coup, toi, t'es arrivé en mars ou t'es arrivé en septembre, en juillet, en août-septembre, toi?
Non, je suis arrivée en août, mais en fait, oui, techniquement, eux, leur année, elle commence en février et puis après, elle finit en décembre et après, t'as deux mois de vacances entre... Mais en fait, quand on vient de France, on arrive en août ou en septembre et on fait notre premier semestre pendant leur deuxième semestre. Parce qu'en fait, comme tu choisis tes cours là-bas, c'est pas vraiment problématique il y a pas une continuité dans les cours du premier au deuxième semestre. Mais en fait, c'est comme en France, à la fac, t'as des cours au premier semestre et t'as des cours au deuxième semestre. C'est pas les mêmes. Donc, voilà, ça fonctionne comme ça.
Eh bien merci Iman, merci Nathan et merci à vous d'avoir écouté cette première émission de Globetrotter. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve lundi prochain à 14h sur Radio Campus pour la suite de notre découverte de la Corée. Cette émission est rediffusée mercredi à 14h et disponible dès maintenant sur YouTube, Spotify et Deezer. Tous les liens sont disponibles sur notre Instagram @globetrotter.podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés et bon après-midi sur Radio Campus.